Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 14 janvier 2022, vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 101. Bonne année, je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de la méga persévérante Laetitia. Après 100 épisodes, elle a décidé de rempiler pour 900 épisodes de plus. Et puis pour cette nouvelle année, j'ai décidé de changer les surnoms et on va faire une année avec les méga. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne. Et puis mon petit dictionnaire en ligne des 1 et im, et c'est commencé à saturer, donc il fallait que je trouve d'autres adjectifs.
Avec méga, c'est facile, rajoute méga devant tout.
Exactement, j'ai triché, je me suis dit je vais faire un truc simple. C'était soit super ou soit méga, donc voilà, ça va être une méga.
LCD vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, la première de l'année 2022, beaucoup de news simples et funky, des levées de fonds en série, on va de la série A jusqu'à la série E, de la crypto à gogo et nouvelle rubrique Clash Commerce, parce qu'avec Adrien, on adore la castagne.
Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun et on vous challengera avec des jeux autour de l'actualité de la semaine, chiffre de la semaine, French Connection et Kikadi pour cet épisode. Laetitia,
Adrien, prêt?
Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne fallait surtout pas louper. On était absent pendant 2-3 semaines, je crois, et il y en a eu un paquet. C'est la rubrique des news simples dans un format funky.
Instagram passe devant TikTok et devient l'application la plus téléchargée au monde. Alors, je parle du dernier trimestre 2021 et surtout, on peut remercier l'Inde qui a beaucoup téléchargé l'application sur ce dernier trimestre. Eh bien oui, parce que TikTok a été banni de l'Inde.
Amazon, Vinted, Yves Rocher, Decathlon, tous les sites qui ont été les plus utilisés l'année dernière. C'est le classement de la FEVA 2022 qui vient d'être publié.
Gap lance sa première collection de, à votre avis, de roulement de tambour, et bien de NFT sur Tezos et permettra aux clients de s'offrir le fameux sweat à capuche et je suis à deux doigts de me l'offrir puisque je suis une fan de Gap et des sweats à capuche.
Jumbo s'associe à Gorillaz, au PIA et en Flandre d'abord.
Et la rubrique qui parle de money, c'est les levées de fonds et les rachats de la semaine. C'est la rubrique dans la rubrique, c'est les levées de fonds de la semaine et les rachats de la semaine.
C'est un vrai inception. Laetitia, je vais commencer par Checkout.com, une fintech anglaise qui lève 1 milliard de dollars pour une valorisation de 40 milliards de dollars. Alors, contrairement à un Stripe qui est très populaire pour, on va dire, les marchands mid-market, petits ou moyens, eux, Checkout.com, ils sont spécialisés très grands comptes et ils bossent avec Netflix, Farfetch, Pizza Hut ou Shein, par exemple. Donc, bravo à eux.
Celle-ci, le petit éditeur, alors grand éditeur maintenant de CRM français, a levé 85 millions et entend accélérer sa percée sur le marché SMBs. Et alors moi, j'ai tenu à parler d'eux parce que les pauvres, ils ont annoncé leur levée de fonds le même jour que tout le monde, que Anchor Store, que Back Market. Ils ont été un petit peu dilués. Et sur LinkedIn, je voyais des gens de chez celle-ci qui disaient « Bon, bah voilà, faut quand même le mentionner, c'est une belle levée de fonds pour un bel acteur. » Donc, je tiens à leur rendre hommage. Bravo celle-ci.
J'ai vu plus souvent les gens faire la blague de on les a pas vus que eux qui ont levé de l'argent. Donc au final, en fait, on a plus parlé d'eux du fait qu'on n'ait pas parlé d'eux, quoi. Back Market lève 450 millions d'euros pour une valorisation de 5,1 milliards d'euros. C'est complètement démentiel. Et d'ailleurs, on en discutera tout à l'heure avec toutes ces levées. Juste pour se mettre les choses en perspective, ça vaut trois fois plus cher que Fnac Darty. Bon, voilà, juste pour mettre les choses en perspective.
Olivier, si tu nous écoutes, bravo. Levée de fonds record pour maintenant Conto. 486 millions d'euros et voilà, on atteint la 25e licorne française. Je crois que l'objectif d'Emmanuel Macron était 25 licornes en 2025. Voilà, on a atteint et moi, je vous ai mis le lien en fait de... alors, c'est pas de l'autopromo, mais en tout cas sur le site, le blog de Conto, les deux fondateurs expliquent un peu tous les mystères et tout ce qui s'est passé derrière cette levée de fonds. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que tous les articles qui relayaient encore l'histoire phénoménale de cet acteur français.
Anchor Store, marketplace professionnel, lève 250 millions d'euros pour une valorisation à 1,75 milliard d'euros.
La place de marché NFT, donc la marketplace OpenSea, vient de lever 300 millions de dollars. Et oui, j'ai décidé de parler des NFT et de crypto et de plein de choses comme ça cette année.
Laetitia, là, il y a eu un paquet de surtout des boîtes françaises qui ont levé de l'argent là, depuis le début de l'année. J'ai vu deux réactions. La première, c'est bravo, c'est incroyable ce qui se passe. Et puis d'autres qui expliquent que c'est indécent avec ce qui est en train de se passer, c'est une bulle. Toi, comment tu le perçois ?
Alors, moi, je vais revenir peut-être plus particulièrement sur Back Market, par exemple, où tout le monde les félicitait. Enfin, c'est une belle boîte, hein, j'ai rien contre. Et j'ai vu un post de Maud Sarda, qui est la big boss de Label Emmaüs, qui félicite effectivement Back Market, mais en expliquant que bah, quand on reçoit énormément d'argent comme ça, enfin, on ne reçoit pas, hein, ça reste toujours des levées de fonds, donc ça reste un prêt et un engagement. Bah, l'idée, c'est d'aller au bout quand même de l'ADN de la boîte. Back Market, c'est quand même du reconditionné. Il y a quand même un esprit de recyclage, de RSE, enfin toutes ces choses-là. Ok, maintenant que vous avez reçu autant d'argent, les gars, poursuivez, faites de l'inclusion, n'embauchez pas que des gens avec des salaires mirobolants et poursuivez dans cet effort de sauver la planète.
Je viens de recevoir un SMS de l'avocat de Back Market, là, il va déposer diffamation, là, attention, enfin, attention à ce que tu dis.
Non, en plus, alors là, je reprends des propos de Maud Sarda. Et franchement, moi, ça me faisait plaisir qu'enfin quelqu'un, et elle est aussi dans le reconditionné, dans la seconde main. Et je trouvais ça bien qu'elle remette un petit peu le clocher au milieu du village. C'est ça l'expression, ouais.
Tu sors tous les 5 épisodes. Oui, c'est bien celle-ci, Laetitia.
Non, mais moi, c'est exactement ce que je pense. Donc, les gars, c'est bien, vous levez énormément d'argent, mais ne vous dispersez pas. Qu'est-ce qu'on fait avec 486 millions d'euros? Ok, vous allez ouvrir des bureaux partout. Non, mais misez sur les bonnes personnes et misez sur les bonnes missions, quoi. Donc c'est fou. Maintenant, c'est très bien. Je félicite les gens qui ont les... Parce qu'il faut avoir les capacités faut être hyper intelligent pour faire ça, quand même. Par contre, ouais, ne perdez pas de vue vos ambitions premières et l'ADN de vos sociétés.
Par rapport à tout ce qui se passe, je pense que c'est complètement déconnecté. Enfin, c'est valorisation. Mais à la limite, c'est pas de la faute de la France. En fait, c'est au niveau global. On voit ça. Les fintechs sont survalorisés. Donc, je suis content parce que d'un autre côté, ça permet aussi pour la France d'avoir plus de visibilité. Ça permet de mettre un coup de projecteur s'il y a encore besoin sur l'écosystème des startups françaises qui sont toutes internationales. Donc ça aussi, c'est super. Il y a quelques années, ça aurait été certainement différent. Et puis là, tu as pris, je pense, un des seuls exemples ou un des exemples où justement, pour le coup, on comprend pourquoi il lève autant. C'est quand tu écoutes le fondateur, il dit que notre croissance est quasiment deux fois plus forte qu'avant le Covid. Ça peut faire grincer des dents. Mais en fait, ces boîtes qui lèvent, elles ont passé une période très, très difficile ces deux dernières années. Et si tu arrives ces deux dernières années à avoir des croissances, à montrer que tu as pu grandir et trouver un modèle intéressant, bah ouais, les investisseurs y courent et continuent d'investir pour ton développement.
La news what the fuck de la semaine, Adrien. Qu'est-ce que tu as été repéré dans les méandres du web ?
Une petite vidéo de 25 secondes qui a été vue presque 1 million de fois. Si j'avais pu m'abstenir, je l'aurais fait, mais trop tard, j'ai été happé, je l'ai vue. C'est H&M qui lance un concept store dans le métavers. Donc allez, ça y est, il faut que tout le monde s'y mette et lance sa petite vidéo. Franchement, la vidéo, bon, elle est courte, donc je vous ai mis un lien, vous pourrez la regarder. Ça montre un peu comment c'est. C'est pas fifou, hein. ça fait pas rêver. En tout cas, ça a sûrement demandé beaucoup d'efforts de le faire, de mettre en forme les produits, etc. Mais on est encore loin des promesses qu'on peut avoir sur le papier. On est au début, on sait bien, c'est une tendance qu'on va regarder. Et la news inutile dont on s'emballait, Laetitia, c'est laquelle ?
Bah, c'est la pauvre Kim Kardashian va être poursuivie pour arnaque. Alors, en fait, Kim Kardashian et d'autres célébrités ont fait la promotion de crypto-monnaie. En l'occurrence, là, c'était l'Ethereum Max. Et n'a pas précisé que c'était un partenariat et que de miner ou de miser sur des cryptos, eh bah, ça pouvait engendrer des risques. Et du coup, bah, la petite Kim, elle est poursuivie. Et alors, en France, on a eu aussi un cas comme ça avec notre fameuse Nabila Nationale, qui elle aussi a été retoquée par la justice et elle a écopé d'une amende. Voilà, on s'en fout, mais moi je voulais le dire quand même.
Ça me fait penser à McAfee qui était très influent sur les cryptos, qui faisait payer, je crois que c'était 1 million de dollars si tu voulais qu'il tweete quelque chose sur ton coin.
Wow.
Et en fait, il brassait un maximum d'argent. Bon, maintenant il est décédé, paix à son âme. C'est une personnalité très sulfureuse. Et en fait, pourquoi ça me fait penser ? Parce qu'en fait, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de procès autour justement de la manière dont il mettait en avant certaines coins, certaines cryptos. Et bon, voilà, c'était pas très, très très, très, très clair. Donc, c'est très bien qu'il y ait un petit peu de ménage dans tout ça. Mais bon, je pense que ça ne changera rien du tout. Je ne la connais pas, Kardashian, mais je pense que ça ne va rien changer pour elle, non, Laetitia, ou si?
Non, ça ne changera rien pour elle, pas du tout.
Ok. On ne s'en fait pas trop pour elle, alors.
Non, ça ira, Kim. Cœur sur toi, on est là.
Quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on parle de nous, la rubrique que Laetitia appréhende et en fait toute la communauté en force lui a dit clairement non, on veut cette rubrique, on la dégage pas.
Donc alors là, vous m'avez pas aidé sur ce coup-là parce qu'à chaque fois qu'Adrien, je lui dis viens, on supprime.
On lui propose un CDI à cette rubrique, elle va rester, donc on l'embauche, bienvenue chez nous, tu vas t'installer, tu vas rester ici. Alors Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé chez toi ces derniers temps?
Bah, moi, je suis allée faire un petit tour du côté des commentaires, ma passion, hein, puisque j'ai hâte qu'on atteigne les 100 notes et surtout des avis 5 sur 5 sur Apple Podcast. Et on a reçu deux nouveaux avis. Alors, le premier, c'est 70308. J'adore, on dirait les pseudos à l'époque sur Caramel ou sur... comment ça s'appelait? Messenger, c'était ça le truc? Non, c'était pas Messenger, si. Ouais.
Non, c'est Caramel, je crois.
Ouais, mais après, tu sais, il y avait le truc là sur Messenger. IRC, là.
Mais je crois que tu connaissais pas ça. Non, ouais
je sais Messenger.
Pas.
Okay. Ah, je sais plus, et on t'envoyait des whiz et tout.
Ah oui, c'est ça. C'était, c'était le truc Messenger. Ouais, les whiz, c'est trop marrant, ça. Alors vas-y, c'est quoi les commentaires?
Alors, Cédric, je crois qu'il s'appelle Cédric, nous envoie top, super podcast, super animateur avec 5 étoiles. Et on a Nenkia qui nous a envoyé podcast fun, pertinent et pro, très rythmé, accessible, pointu à la fois, à l'affût des dernières news et décryptage tendance techno, avec prise de position sans langue de bois. Ce duo est un vrai plaisir à écouter. On ne s'ennuie pas, on apprend, le format est top, à la fois long et court, balaye de nombreux sujets et permet d'aller plus en profondeur sur d'autres sujets. Je vais pas jusqu'au bout parce que le commentaire est rempli d'éloges. On parle du groupe WhatsApp, elle dit que c'est génial aussi. Et puis surtout, elle nous souhaite une bonne année. Eh bien, merci beaucoup. Je dis elle, mais ça se trouve, c'est peut-être un garçon, je ne sais pas. Non-binaire, IL, on va dire. merci beaucoup, en tout cas. S'il y a bien un avantage à cette rubrique, c'est que vous m'écoutez quand je vous dis de me laisser 5 étoiles. Donc, merci.
Ouais, il y a eu les étoiles et les commentaires, parce que tu peux laisser des étoiles, mais pas de commentaires. Donc, merci mille fois. Sur Shopify, ça y est, j'ai débloqué la fonctionnalité. Donc, oui, on peut laisser des notes. Donc, faites-le aussi. Ça nous aide.
Shopify, tu continues à faire cette erreur.
Je l'ai faite.
Oui,
sur Spotify. Tu vois, je suis pas un utilisateur de Spotify, mais de Shopify, si, c'est pour ça. Donc, laissez des notes. Merci mille fois. De mon côté, tiens, moi, je voulais te partager les retours qu'on a eu sur l'épisode 100. On pensait que ça serait un épisode qui marcherait pas, parce que de toute façon, les épisodes comme ça, spéciaux, FAQ, qui arrivent en période de fête, en général, ils fonctionnent pas. Bah, il a très, très bien fonctionné. On a eu énormément de retours, que ça soit de la part de la communauté.
Même des retours inespérés, hein, dans les plus hautes sphères des médias. Internationaux, on a eu des retours, donc c'est génial.
Par des chaînes très audacieuses. Donc on a eu des retours, effectivement, beaucoup de personnes nous ont contactés, nous ont encouragés, donc ça nous fait très très plaisir. C'était pour nous, c'était vraiment un symbole. On a fait cet épisode extrêmement long et moi je suis choqué, impressionné du fait que sur 1h40, les personnes sont allées au bout et ils ont tout écouté. Moi, je sais pas si j'aurai la patience, mais en faisant le montage, on a très très peu coupé parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, c'était un épisode particulier. Donc, merci à vous pour vos encouragements. On continue, on a encore plein de surprises pour vous et puis on espère faire encore 900 autres épisodes pour fêter l'épisode 1000. On fera un truc spécial.
Ouais, merci, parce que moi, comme d'habitude, j'y croyais pas. C'est comme la rubrique Quoi de neuf chez nous, l'épisode 100. Je disais à Adrien, tout le monde s'en fout. Viens, on le fait pas et finalement, on l'a fait. Donc, merci encore pour tous vos écoutes et votre soutien au-delà de l'épisode. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Grosse activité en ce mois de janvier, Adrien, il y a un très gros événement qui va se dérouler là à partir de dimanche aux États-Unis.
Exactement, donc au moment où on enregistre l'épisode, là ça va arriver bientôt, donc peut-être que quand vous écouterez l'épisode, on sera en plein dedans. C'est un événement qui s'appelle la NRF. Si vous évoluez dans le domaine, sur le marché, vous devez avoir entendu parler de la NRF. Donc l'édition 2002, elle a lieu à New York. Entre le 16 et le 18 janvier, ça dure 4 jours, c'est un salon professionnel qui est annuel. L'année dernière, c'était du entièrement digital, ça n'avait pas vraiment bien fonctionné, donc là, c'est un peu le retour avec un événement physique. La NRF, c'est quoi? C'est la National Retail Federation. Je pourrais peut-être l'associer à la FEVAD, alors peut-être que ce n'est pas le statut d'association, etc., mais on va dire que c'est la plus grande association de commerce de détail et qui est très, très influente aux États-Unis et donc qui brasse énormément d'acteurs dans cet événement. Il y aura des acteurs du monde entier. C'est à New York, mais en fait, il faut le voir comme le CES, par exemple, ou le Mobile World Congress. Grèce. C'est des événements qui sont géographiquement, il est à New York, mais en fait, il y a des acteurs de partout. Et il y a notamment une délégation française. Donc, on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Je voulais juste le souligner parce que j'aimerais, enfin, Laetitia et moi, on aimerait beaucoup le couvrir. Alors, on ne sera pas à New York, mais on va se trouver un moyen de pouvoir avoir les tendances. Et je voulais juste, Laetitia, te rappeler l'année dernière, c'était quoi les grands piliers? Et on découvrira cette année les tendances. L'année dernière, c'était l'accélération du e-commerce, le rencontrer le client où qu'il soit, l'hyperagilité de la supply chain, l'authenticité des marques et l'importance de la data. Le titre de cette édition 2022, l'accélération de l'avenir du retail. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'acteurs, il y en a plein qui ont annulé, bon, comme tous les événements. Donc, on a une petite délégation française qui va là-bas et qui nous fera un petit retour. Donc, on vous partagera ça la semaine prochaine.
Retour vers le futur, c'est la rubrique dans laquelle on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi des news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions et nos analyses et on vous en fait part. Montez dans la DeLorean et c'est parti. Et il y a un an, quasi jour pour jour, j'adore parce que c'est toujours à la précision, on recevait Johan Antoine de chez Global. Adrien, de quoi parlions-nous avec Johan? Et puis bah, du reste, c'était quoi l'actu du moment?
C'était donc l'épisode 67, début janvier, il y avait un paquet de choses et puis j'ai retrouvé pas mal de ressemblances avec ce qu'on a couvert, ce qu'on couvre aujourd'hui. Il y a Checkout qui annonçait qu'il levait 450 millions de dollars. Donc aujourd'hui, ils ont levé 1 milliard il y a quelques jours et l'année dernière, ils étaient valorisés 15 milliards et là, ils sont valorisés 40 milliards. Donc Checkout, 12 mois plus tard, bravo à eux. Les startups françaises, c'était aussi le moment où on fait des rapports, des bilans un peu de l'année dernière. Les startups françaises qui ont levé le plus de fonds en 2020 et on retrouve des Miracle, Content Square, Sendinblue, Mano Mano, Back Market, Conto. On retrouve Back Market et Conto qu'on a vu également. Carrefour qui trace par blockchain les textiles en coton bio de sa marque Tex. J'ai pas trouvé de suivi par rapport à ça, donc j'étais curieux de voir est-ce que ça marche vraiment. Si ça marche, il n'y a peut-être pas grand-chose à communiquer, mais je n'ai pas trouvé en dehors de ce qu'ils ont fait l'année dernière s'il y a eu un suivi. Et puis avec Johan, on avait discuté d'international et des best practices pour accompagner les marques.
Il y a un truc hyper intéressant avec cette rubrique, c'est que on retrouve les mêmes acteurs qui lèvent toujours autant d'argent. Et on voit que c'est assez cyclique, quoi. C'est toujours quasiment en même période. Donc, hyper intéressant cette rubrique. Bon, finalement, je crois que je l'aime bien et que je vais la garder.
Clash Commerce, c'est la nouvelle rubrique. Bienvenue dans l'octogone de l'e-commerce où on va débattre, on va se bagarrer, on va prendre des gants de boxe, où on a mis un gant de boxe sur le micro plutôt, et puis on va discuter, on va voir la cadence. Je pense qu'on va le faire une fois par mois avec toi, Laetitia. On va choisir un thème et puis on va essayer de débattre, discuter, de regarder un petit peu comment on peut défendre nos positions. Alors, on a choisi un sujet très facile, un petit sujet dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, c'est le quick commerce.
Premier round, celui de la définition et des chiffres clés.
Alors, Laetitia, déjà, explique-nous un petit peu, c'est quoi le quick commerce?
Je crois que personne n'est au courant de ce qui se passe avec le quick commerce, donc je pense qu'il est bien de replacer encore une fois le clocher au milieu du village. Le quick commerce, qu'est-ce que c'est? Ou le Q-commerce, on entend aussi parler de ça, ça désigne l'ensemble des activités commerciales de distribution basées sur la promesse d'une livraison effectuée dans un délai très court de l'ordre de 10 à 15 minutes. En gros, c'est la livraison très 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 rapide sur généralement un catalogue très 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 restreint, donc vous ne faites pas des très grosses courses comme vous pouvez le faire sur WooShop ou Leclerc Drive ou autre. En revanche, il s'agit de petites quantités sur un catalogue très très restreint.
Je rajouterais, Laetitia, à ce que tu viens de dire, ça repose, parce qu'on pourrait dire, OK, l'idée, elle est pas nouvelle. En fait, ça repose sur une optimisation des flux. C'est-à-dire que, entre le moment où tu achètes, où tu passes ta commande plutôt, et le moment où tu le reçois, tout a été optimisé. C'est pas que le transport, mais c'est la réception de la commande, préparer la commande, le paqueter, le donner au livreur et faire en sorte que ça soit livré. Et donc, une des manières de l'optimisation, c'est également grâce à la présence de mini-entrepôts qu'on appelle des dark stores. Dans les centres urbains denses. Donc, tu vas avoir des endroits qui seront fermés au public et qui serviront simplement à donner, à préparer les commandes et à les donner à des livreurs qu'on voit souvent en vélo ou en moto pour se déplacer très rapidement dans un petit rayon. C'est pour ça qu'on le retrouve surtout dans les villes plutôt peuplées.
Ouais, dans les très, très grosses villes. Et ce sera un des arguments que je proposerai tout à l'heure dans notre gros argumentaire. Les acteurs du quick commerce, vous les voyez, hein, Adrien vient de vous le dire, si vous habitez dans une grande agglomération, vous les voyez, ils sont en scooter ou en vélo et généralement, ils sont de couleur très, très, très flashy, du jaune, du vert, du bleu. Parmi les acteurs, Adrien, qu'on voit, lesquels tu as là tout de suite en tête?
Tout le monde parle de Gorillaz, parce que c'est vraiment le plus gros, le leader. En tout cas, sur le marché français, on entend beaucoup parler. Il y a Frichti également. Frichti, c'est français pour le coup. Tu as Getir, Cajou, Dija, Cole. Et puis, il y en a un dans le Nord, Laetitia, rappelle-moi comment...
C'est Hyper dans le Nord, ouais, c'est YPER et on les a rencontrés sur l'événement de Michel Coq.
En tout cas, il y a un paquet d'acteurs et puis je crois qu'il y en a un par jour qui se crée. Donc les acteurs, il y en a beaucoup et des acteurs internationaux et des acteurs également locaux. Pourquoi il y en a beaucoup? Parce qu'en fait, il y a une opportunité de marché. En France, les estimations, c'est qu'il y a une grosse croissance et un marché potentiel qui est assez important. En 2021, le chiffre d'affaires du coût de commerce, on parle de 122 millions d'euros, donc c'est pas énorme, mais quand on compare par rapport à 2020, c'est une progression de 86%. Il se passe beaucoup de choses en ce moment sur le marché, Laetitia, autour du quick commerce?
Il se passe énormément de choses. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas de levée de fonds, mais à l'inverse aussi, il y a quand même pas mal d'acteurs qui décident de se retirer. Il y a un acteur allemand, là, la semaine dernière, qui a décidé de se retirer. Et puis, il y a aussi de belles alliances qu'on a couvert aussi dans le podcast. Par exemple, Carrefour qui s'est allié à Uber Eats et à Cajou pour livrer en 15 minutes. Donc ça, c'est toujours la promesse de base, c'est que vous livrez dans un temps
record. Avec Uber, il me semble. Uber Eats,
ouais,
également,
exactement.
On les voit. Ici, ils sont tous mis ou ils vont tous s'y mettre.
Ouais, et puis on voit aussi que pour les acteurs de la grande distrib, c'est hyper important de s'allier et surtout d'investir dans le quick commerce. On assiste à pas mal de conférences avec Adrien et les acteurs de la grande distribution le disent tout le temps. C'est l'avenir, nous on investit, on y croit et puis limite, ils investissent sans modération. Voilà, l'encart qu'on trouve avec Adrien, c'est que c'est un modèle où on investit vraiment comme dans une bulle spéculative.
Attention Lucien, ne me prête pas des propos, je vais arriver avec mes arguments.
Deuxième round, on va discuter du sujet en tant que tel.
Toi, Laetitia, est-ce que tu crois à ce modèle? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va rester, qui va se développer et dans 5-10 ans, tout le monde utilisera ces modèles-là ou pas?
Non, alors moi, je n'y crois pas. Je pense que, sur le papier, la promesse, elle s'adresse qu'à une certaine cible, des gens qui sont hyper urbanisés, qui sont dans des centres-villes où c'est compliqué de faire de grandes courses et où on a l'habitude de commander et où surtout, où les gens ont l'habitude d'avoir des livraisons très, très, très rapides, donc des très grandes agglomérations. Pour moi, il y a déjà énormément d'acteurs. Par exemple, demain, si j'ai envie, moi, d'utiliser du quick commerce, honnêtement, je ne sais pas qui j'utiliserais, parce que je trouve que la promesse est la même chez tous les acteurs. Alors, il y a encore des petits acteurs du type La Belle Vie qui vont vous proposer du coup de commerce peut-être plus propre, plus bio, et à la limite, je me dirigerais peut-être plus sur des acteurs comme ça.
Sur le fait qu'il y ait trop d'acteurs, le marché va se consolider, comme n'importe quel nouveau marché, tu as plein d'acteurs qui arrivent, ça fait partie de n'importe quel marché, ça a toujours été comme ça, tu as plein d'acteurs et puis ensuite, ça se consolide.
Mais est-ce que à l'inverse, ça a toujours été comme ça, que tous ces acteurs lèvent autant d'argent et construisent une espèce de bulle spéculative autour de ce secteur? Je suis pas certaine.
Mais pourquoi tu le reprocherais dans le quick commerce et pas dans les autres secteurs fintech par exemple?
Fintech, j'en étais sûre que tu allais me dire ça. Parce que moi j'adore les fintech, je le dis et je ne suis absolument pas objective là-dessus.
D'accord, donc pour les fintech c'est bien d'avoir ces valos de fou furieux. Par contre pour le quick commerce...
c'est pas bien. Ce n'est absolument pas raisonné de ma part. Voilà, je le dis, je l'avoue. L'autre chose qui me donc c'est tout doit se passer dans les centres-villes, dans les hyper centres-villes. Le concept des dark kitchen qu'on confond pas avec les dark stores n'a pas fait de preuve, donc je me dis sur un concept de dark store, et on est déjà passé devant un dark store, Adrien, rappelle-toi, c'est hyper glauque, c'est moche et puis après moi j'ai une petite appréhension sur comment est-ce qu'ils vont se développer ailleurs que dans les grandes villes, on sait pas, et puis surtout faut qu'on arrête de regarder ça d'un œil parisien. Je suis pas sûr que dans un petit village le commerce fasse fleurir et que les gens aient surtout besoin de ça. Je reviens encore sur mon idée de départ, c'est un besoin hyper urbain.
Le côté hyper urbain, je pourrais te rétorquer aussi que les grandes villes, il y en a beaucoup. Déjà, s'ils peuvent s'installer dans toutes les grandes villes...
Bah, ils sont déjà dans toutes les grandes villes.
Les VTC, ils ont commencé dans les grandes villes et puis ils sont développés petit à petit.
Je te mets au défi de trouver à Pézenas ou dans un petit village du Luberon un Uber, et du coup un Uber Eats, ça n'existe pas.
Ouais, mais pas, certes, parce que tu m'as pris l'extrême qui est le village, images, mais en dehors
mais
de Paris,
Adrien,
Lyon,
c'est
Marseille.
Mais la France, c'est pas Paris, Lyon, Marseille.
L'objectif, non, mais si tu fais un business, ton objectif, t'es pas le président, l'objectif, c'est pas de vendre partout en France, c'est de vendre là où économiquement c'est viable. Et donc, l'argumentaire de dire le quick commerce ne marche que dans les grandes villes, mon point, c'est de dire ça marche dans les grandes villes et ça va se développer dans des villes moyennes et ça sera, ça pourra toucher beaucoup plus de personnes.
Moi, je dis que le périmètre est limité, du coup. Ça s'adresse à des grandes villes, des villes moyennes éventuellement, mais ça n'ira pas au-delà. Donc, du coup, le périmètre est très limité. Et puis, c'est même pas dans leur intérêt d'aller dans des villages de toute façon. Donc,
même avec ce périmètre qui est limité, ça représente un marché qui alors j'ai pas les chiffres exactement de quoi on parle sur quel est le potentiel, le marché adressable. Mais déjà, s'ils peuvent adresser n'importe quelle ville qui est une certaine densité, alors il y a des métriques en fonction du nombre de personnes qui habitent au kilomètre carré. Mais on va dire, je pense que ça, c'est un problème de jeunesse. Là aujourd'hui, c'est un vrai problème parce qu'ils adressent que des endroits qui sont très très denses, mais le modèle va se développer, ça adressera plus de villes. Donc oui, c'est limité, mais si tu le fais ensuite dans plus de villes, dans plus de pays, bah, potentiellement tu peux déjà toucher beaucoup beaucoup de personnes.
Après, moi, l'autre écart que je vois, c'est que ça reste quand même sur des courses de dépannage, donc on n'est pas sur des catalogues très très variés, et puis surtout on va pas être sur du produit locaux. Alors ça, c'est mon côté un petit peu écolo, et puis surtout on va être sur des produits très très chers. Je ne sais pas si tu as déjà regardé, mais enfin, tu vois, payer son paquet de chips 15 balles, j'exagère. Mais enfin, voilà, ça a un prix, en fait, d'être livré en moins de 15 minutes. Hein. C'est pas gratuit. D'ailleurs, rien n'est gratuit. Ça a un prix écologique. Puis, ça a un coût aussi sur des gens qui travaillent, en fait. C'est des gens qui travaillent toujours dans l'urgence. Je rappelle qu'il y a encore eu là un livreur. Alors, je crois que c'est Deliveroo. Le gars avait 16 ans quand même. Il s'est fait... Enfin, il est mort par un camion, tu vois, parce qu'il fallait qu'il livre très, très vite. Voilà. Donc, il y a aussi un coût humain derrière, avec des travailleurs qui parfois achètent des licences, en l'occurrence pour ce gamin de 16 ans, je crois que c'est ce qui s'est passé, que c'était pas sa licence de toute façon puisqu'il avait 16 ans. Donc je pense qu'il y a aussi toute une réglementation du travail. C'est important quand tu montes un business. Non, c'est pas un exemple. Moi, je pense que c'est important quand tu montes un business et que tu as envie qu'il prospère, d'avoir ça en tête, que il y a un coût humain derrière. Tu veux faire les choses vite. Qui est-ce que tu embauches? Dans quelles conditions tu les embauches pour faire un business je peux le dire propre, mais correct en tout cas, parce que je pense qu'un jour, cette cible-là, les gens qui consomment sur du quick commerce, j'espère, se poseront la question de se dire,
regarde, toutes les boîtes, elles ont commencé avec des contrats précaires. Gorillaz est arrivé et puis maintenant, ils placardent partout que ce sont des CDI qu'ils contrôlent. Tout comme les Uber, les chauffeurs, au départ, c'était un peu freestyle et maintenant, il y a beaucoup plus de contrôle. Mais prendre un exemple isolé et dire, c'est la fin du truc, non, c'est des erreurs de jeunesse.
Non, j'ai pas dit que c'était l'exemple.
Moi, sur cet aspect-là, tu vois, des travailleurs, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fixé. C'est-à-dire, c'est juste la manière dont la relation que tu vas avoir avec tes employés, enfin avec les livreurs.
Non, mais je pense que justement, il y a eu des exemples, il y a eu des précédents avec Uber, avec des Deliveroo. Et bien justement, les gars, prenez ça en tête, mettez ça en tête de votre to-do list et vous dire que c'est pas le dernier des problèmes, en fait, les salariés. Ça doit être votre premier champ d'action.
Ce qui est beaucoup critiqué avec le coût de commerce, c'est le modèle économique. Tu l'as pas cité. Moi, je le mettrai en avant. Moi, je mettrai en avant deux choses qui est en point d'interrogation. Le premier, c'est le modèle économique. On est sur des paniers moyens de 25 euros. Tu as une marge de 30%. Tu regardes avec ce qui te reste pour faire fonctionner les coûts fixes, pour payer le livreur.
Les salariés.
Et les coûts d'acquisition aussi de tes clients. Donc, c'est clair que là, pour le moment, tout le monde est à perte et il n'y a pas vraiment de business model viable qui est apparent. Et un des arguments qui est avancé, c'est oui, mais regarde Amazon, au départ, ils ont ouvert des sites sur des pays. Ils vendaient à perte. Et puis, une fois qu'ils avaient le marché, un marché suffisamment grand, suffisamment de volume, ils ont commencé à être bénéficiaires. Ça, c'est un argument que j'ai du mal à entendre parce que déjà, premièrement, en 2000, quand il y avait Amazon qui s'est lancé, et puis en 2020, les règles du jeu, elles sont différentes. Amazon a mis 10 ans pour être rentable sur la partie retail sur la partie retail internationale, encore plus de temps, mais ils avaient AWS derrière qui générait de l'argent. Donc, il n'y a aucune boîte aujourd'hui qui peut se dire j'ai quelque chose qui me ramène de l'argent et je peux continuer à perdre de l'argent et à investir. Moi, je pense que là, déjà, le modèle économique, c'est un truc sur lequel je ne vois pas trop de solution avec le modèle actuel.
En fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les investisseurs investissent autant dans tout
Non, parce qu'ils regardent les projections et les projections de demain. Moi, en tant que consommateur, avoir des coquillettes en 8 minutes, est-ce que c'est un truc qui est si stratégique que ça? Si c'était des médicaments, bah là, la question elle se poserait différemment. Tu vois, tu vas avoir un autotest ou tu vas avoir des médicaments. Bref, là, oui, il y a une urgence, c'était prêt à le payer.
Oui, mais il y a l'effet pandémie aussi. L'effet pandémie a fait qu'on avait tous envie de se faire livrer et qu'on avait moins envie de sortir aussi. Il y a la peur aussi d'aller peut-être faire ces courses qui ne sont pas de première nécessité d'ailleurs, puisque du coup, le commerce, c'est ben, voilà, dans les catalogues, on est rarement sur des choses.
C'est marrant ce que tu dis, parce que je le tournerais d'une manière, ça répond pas à un besoin, ça répond à un luxe. C'est-à-dire que la majorité des gens, ils n'en ont pas besoin, ça coûte trop cher pour eux pour avoir ce luxe. Et certaines personnes qu'on retrouve surtout dans les grandes villes, dans certains quartiers, etc., oui, elles peuvent se permettre parce qu'elles s'en fichent d'avoir de payer plus cher des pâtes ou du ketchup. Ils veulent avoir le service et ils veulent l'avoir rapidement.
On répond à quoi ? À un besoin, à une envie, une nécessité économique, à une inflation qui ne cesse de croître. Voilà, moi, je n'arrive pas à comprendre à quoi répond le coût de commerce, si ce n'est qu'on a envie d'être toujours livré plus vite, rapidement et répondre à un désir urgent. Alors que la majorité des Français, leur souci, je pense, peut-être pas l'intégralité des gens qui nous écoutent, mais c'est de comment est-ce que je consomme mieux et en dépensant moins. Et là, tu consommes ni mieux et tu dépenses pas moins.
Laetitia, les chiffres te prouvent le contraire quand tu vois l'évolution et les parts de marché que ça prend. Il y a une chose, c'est que le quick commerce, il existe déjà. C'était quoi ? C'était Leclerc qui nous balançait qu'ils le font depuis 20 ans ? Je me souviens plus, c'était quoi la contre ?
Non, c'était Franprix.
Franprix, voilà. Bon, ça, c'était pour la blague. Mais non, mais blague à part, on veut toujours recevoir de plus en plus vite. Donc, moi, ce dont je crois, c'est la réduction des délais. Elle est réelle et du J plus 3, on est passé à J plus 1, J plus 1, on va passer à J au jour J, tu attends quelques heures. Donc ça, c'est une tendance et dans laquelle on va. Je positionnerai aussi le quick commerce dans tout ce qui est last mile delivery. Comment est-ce que tu vas faire le dernier kilomètre ? Et donc, je crois beaucoup plus au quick commerce dans sa capacité à aider justement des acteurs dans la livraison au dernier kilomètre qu'au modèle sur lequel, qu'on voit aujourd'hui. Et de toute façon, c'est aujourd'hui, le quick commerce, ça s'adresse qu'à des produits alimentaires. C'est pour ça que je mettrais, tu vois, les dark kitchens, je mettrais encore, c'est un modèle encore différent. Parce que ça fonctionne, mais c'est encore un peu... je le mettrais dans une autre catégorie. Là, recevoir des pâtes ou du lait en 15 minutes, pas certain. Par contre, les produits que tu achètes, tu veux les recevoir plus rapidement, peut-être pas en 10 minutes, mais tu veux les recevoir plus rapidement. C'est quelque chose sur lequel je crois qu'effectivement le marché est en train d'aller. Donc peut-être que le quick commerce, là, il est en train de commencer comme ça et puis il se transformera.
Et enfin, dernier round, notre avis final.
En tout cas, c'est un truc sur lequel des gens, ils ont des positions complètement... pour ou contre. Enfin, tu vois, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient soit complètement contre, c'est de la merde, ça marchera pas, ou d'autres qui disent non, mais attends, c'est the next big thing et ça a fonctionné. Toi, Laetitia, qu'est-ce que tu penses? Si demain, t'es investisseur et tu peux mettre des billes. Tu mets des billes ou pas?
Non, je n'ai pas de billes là-dedans. J'ai des convictions beaucoup trop fortes pour me faire submerger et séduire par effectivement toutes les projections dont tu parlais, qui font sens, hein, je les critique pas, et voilà, les chiffres parlent, mais non, je n'ai pas un euro dedans. Donc du coup, ma note sur 10, parce que c'est ça que tu veux savoir, Adrien, elle est de 2 sur 10.
Wow.
Je suis hyper méchante, hyper critique, alors qu'en plus toutes les semaines c'est moi qui dis oh, ils ont levé beaucoup d'argent et tout, mais non quoi. Non, ça va, tout ça va péter.
moi, écoute, j'essaie d'être l'avocat du diable, mais c'était difficile. Ma note sur 10, je vais te la dire, c'est 3 sur 10. Et pourquoi ? Pour deux trucs principalement. Un, la réglementation. J'ai mis un article, là, c'est la ville de Lyon qui commence à dire non, mais attends, on n'a pas envie de transformer nos villes en entrepôts. Bon, pour le coup, elle se fait traiter d'écolo, etc. Il y a peut-être l'argumentation autour, ça clive beaucoup les gens qui comprennent pas tout. Mais la réglementation, c'est un vrai point. Dans quelle mesure tout ça peut continuer ? Pour le moment, c'est le Far West, mais en fait, ça peut s'arrêter aussi vite que c'est venu, ou en tout cas ça peut être réglementé, ça va rabattre les cartes. Et la deuxième chose, c'est je ne crois pas aujourd'hui au modèle tel qu'il est vendu, tel qu'il est perçu aujourd'hui. Il va évoluer vers d'autres choses qui pourront être intéressantes, mais aujourd'hui les coûts économiques, les coûts écologiques, et après on va dire le coût écologique on s'en fout, mais bon, tous les coûts qu'il y a autour, l'impact que ça a pour le bénéfice que ça apporte, non, j'y crois pas. Donc oui, ça va continuer à grandir jusqu'à un moment donné où on se dira écoute, il y a trop d'acteurs, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire? Pas sûr. Donc note de 3 sur 10, je continue à suivre le phénomène, mais je suis toujours assez sceptique sur le quick commerce.
Et voilà, c'était notre premier Clash Commerce sur le quick commerce. Un café avec, c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept que nous n'avons pas l'habitude de traiter, ni Adrien, ni moi. Cette semaine, on prend un café avec Laura Bokobza. Souvenez-vous, je vous avais conseillé sa fabuleuse newsletter il y a quelques épisodes. La newsletter s'appelle Le comment du pourquoi. Eh bien, Laura est venue prendre un café avec nous et avec elle, on a parlé de coaching, d'e-commerce, de start-up. Bref, le tout en mode LCDE. Et aujourd'hui, nous prenons un café avec Laura Bokobza. Hello Laura, bienvenue dans le podcast.
Bonjour Laura.
Bonjour Laetitia, bonjour Adrien.
Laura, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Et puis aussi qui tu es d'abord.
Alors je suis Laura Bokobza. Je suis aujourd'hui Business Sparring Partner. Donc je travaille avec des dirigeants en caisse de résonance sur toutes leurs problématiques, de la stratégie au service client, en passant par l'offre, le prix, l'organisation, le management, etc.
Donc Laura, si je résume, dans mon petit esprit, tu accompagnes, tu es coach.
Je suis business coach, on peut dire ça comme ça, oui.
Plus précisément, comment est-ce que tu accompagnes et qu'est-ce que ça veut dire dans l'industrie e-commerce d'être business partner?
Alors, business sparring partner, ça veut dire qu'on travaille de façon très proche avec les dirigeants sur tout ce qui leur préoccupe l'esprit, toutes les raisons qui font qu'ils ne peuvent pas dormir. Il y en a beaucoup. Donc, ça peut aller de comment est-ce que j'organise mon équipe, comment est-ce que j'augmente mon acquisition, comment est-ce que je gère ma supply chain pour une meilleure expérience client, comment est-ce que je gère mon support, est-ce que je dois modifier mon offre, est-ce que je dois changer un certain nombre de stack tech. Et en fait, je les aide à gagner en clarté sur la priorisation de ces sujets et ensuite sur leur exécution.
Et Laura, quelle est la typologie de ces personnes que tu accompagnes? Ce sont des dirigeants, les fondateurs?
C'est le plus souvent les fondateurs ou les dirigeants quand les entreprises sont un petit peu plus anciennes et qu'il y a un managing director ou un DG qui est arrivé pour aider les dirigeants. Potentiellement aussi quelquefois des chief operating officer, hein, des CEO. Mais le plus souvent, ça reste les dirigeants parce que moi, je travaille exclusivement avec des PME et des startups scale-up, donc plutôt de petite taille.
C'est quoi les problématiques que tu retrouves le plus souvent? Est-ce qu'il y en a des qui sont communes ou chaque cas est vraiment hyper spécifique et il n'y a rien qui se retrouve?
Il y a quand même des choses qui se retrouvent. Et le truc qui se retrouve le plus, c'est qu'ils viennent me voir avec un symptôme, mais qui n'est pas du tout la cause de leur mal, en fait. Donc la chose qui est la plus commune, c'est le fait et c'est normal en tant que dirigeant, ils n'arrivent pas à voir exactement d'où viennent leurs problèmes. Donc ça, c'est le point commun, on va dire, générique. Après, dans les sujets, il y a beaucoup de choses autour de l'acquisition. Mais parfois, en fait, ça cache le fait qu'ils ne sont pas assez bons en rétention. Et donc, on ne peut pas s'occuper de l'acquisition si on ne s'occupe pas de la rétention en parallèle.
Et là, l'image que j'ai, c'est que la rétention, c'est quelque chose qui est, on en parle très peu. Enfin, c'est quelque chose qui est souvent sous-utilisé, sous-exploité et on n'investit même pas là-dedans. C'est le cas où, en fait, non, il y a des boîtes qui s'en sortent très bien et qui ont des dispositifs de rétention, de fidélisation.
Bah, écoute, s'il y en a, elles viennent pas me demander conseil. Parce que moi, effectivement, toutes les boîtes que j'accompagne, qu'elles soient dans le e-commerce ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas valable qu'en e-commerce, elles ne s'occupent pas de leur rétention. Donc, on a un peu le tonneau des Danaïdes où elles cherchent à acquérir, sans créer de rétention, sans créer le referral non plus. Hein. Donc, la feedback loop qui va permettre que chaque cliente en apporte d'autres, éventuellement, quand ça s'applique. Et donc, là, on a un vrai sujet aujourd'hui. Je pense que c'est à cause de la médiatisation du, je vais appeler ça le mauvais growth, donc le growth qui s'occupe que de l'acquisition, et que tout le monde pense que l'acquisition est le nerf de la guerre.
Ouais, Laura, bah justement, j'allais réagir, j'allais dire, mais en fait, tout ce qu'on voit dans les startups qui scale, ils recherchent tous des kings du growth, quoi. Mais jamais on entend des kings de la rétention.
Et c'est dingue parce que moi, j'ai pas dit mon âge, j'ai 48 ans, donc je fais du marketing et de la strat depuis quand même 25 ans maintenant. Et ça fait 25 ans qu'on sait qu'un client acquis coûte moins cher à fidéliser qu'un client à acquérir. Et ça, pourtant, ça reste la base. C'est un des fondamentaux du marketing depuis Kotler, etc. Et tout le monde l'a oublié. Donc effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec des levées en plus très médiatisées sur de la croissance du nombre d'utilisateurs, mais on ne s'intéresse pas au repeat business, on ne s'intéresse pas à l'upsell et au cross-sell, on ne s'intéresse pas à la fréquence d'achat. Donc il y a quand même des vrais sujets de rétention et de fidélisation, alors que sur les trois façons d'augmenter le chiffre d'affaires, il y en a deux sur trois qui concernent la rétention et la fidélisation. Il n'y en a qu'un sur l'acquisition.
Et quand tu, justement, quand tu amènes ça, c'est quoi la perception? C'est, oh non, la rétention, c'est chiant, on va faire autre chose? Ou alors, ils comprennent et disent, oui, tu as raison et on va mettre les choses en place?
Alors, souvent, ils commencent par me dire, non, mais ça, on verra après. En fait, c'est ce qu'ils ont fait depuis le début et qui les a amenés dans la situation dans laquelle ils sont quand ils viennent me voir. Donc, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'exemples, je leur démontre qu'on peut mettre en place à coût quasi zéro des choses pour qu'ils puissent, en parallèle de notre travail sur l'acquisition, commencer à mettre en place à minima des tests sur de la rétention, sur de l'upsell, sur du cross-sell quand c'est possible dans leur assortiment, de façon à voir, en parallèle de notre acquisition toujours, qu'ils sont en train de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Et petit à petit, par la démonstration, par l'expérience, par les tests, qu'on suit évidemment avec beaucoup de data, on arrive à rééquilibrer les choses.
Laura, lorsque tu commences ton coaching, excuse-moi du terme, j'avais pas d'autres choses qui viennent comme ça, qu'est-ce que tu commences à regarder d'abord? Comment est-ce qu'ils sont entourés, équipés? Comment est-ce qu'ils dépensent leurs ressources, leur argent? Comment ça se passe? T'as un petit scanner et tu regardes tout?
Alors oui, je vais regarder tout, mais il y a effectivement un ordre. Je vais d'abord regarder les indicateurs clés que eux suivent. C'est-à-dire comment est-ce qu'eux pilotent leur business? Parce que souvent, c'est assez révélateur de ce à quoi ils attachent de l'importance. Et il y a déjà, ne serait-ce que dans la disponibilité de data, alors quand je dis disponibilité, c'est sur leur tableau de bord, hein. Parfois, il y en a beaucoup plus de disponibles, mais qu'ils n'exploitent pas. Je vais déjà regarder ce qui leur paraît important. Une fois que j'ai fait ça, je vais corriger un petit peu ces indicateurs. Je vais leur recommander en tout cas d'en suivre d'autres et on va vérifier la disponibilité dans les outils pour ensuite se fixer des objectifs. Et c'est là qu'on a cette grosse discussion acquisition versus rétention. Ensuite, en termes de deuxième étape, je vais regarder l'organisation. Je vais regarder les façons dont ils interagissent, comment ils se sont répartis les rôles s'il y a plusieurs fondateurs, comment est-ce qu'ils délèguent aux équipes quand il y a des équipes. Et en parallèle de ça, je vais regarder l'expérience client et le parcours client de bout en bout. Comment est-ce que j'entends parler de la marque? Comment est-ce que je deviens, comment est-ce que je passe de suspect à prospect ou lead selon les terminologies, comment je passe de prospect à client, comment je passe de client à client fidèle, comment je churn, comment j'arrête d'acheter, etc. Et je vais mettre en parallèle l'expérience client et l'organisation, donc qui s'occupe du client à quel moment en fait de son parcours, pour essayer d'harmoniser les choses et d'amener un peu plus de meilleure expérience client, je ne sais pas comment le dire. Mais là, après, pour le coup, les cas sont très, très différents d'une entreprise à l'autre.
Il y a des clients qui ont également des magasins et donc tu dois prendre en plus les magasins en compte.
Oui, il y en a, ça existe évidemment, de plus en plus même. Alors, il y a les deux cas, quand c'est des magasins en propre ou quand ils sont distribués dans des multimarques, ou qu'ils ont par exemple des corners ou des choses comme ça, où là il va falloir aussi, et je prends toujours l'angle client, c'est toujours l'angle de l'expérience client. Souvent en fait, quand on est en multimarque ou en corner, le gros avantage c'est qu'on bénéficie en fait d'un trafic qui n'est pas le sien pour se faire connaître en termes de notoriété, donc ça a des impacts quand même différents, alors que quand on a ses propres magasins physiques, on va avoir tendance à plutôt travailler la fidélisation justement sur ces magasins, sauf à ce qu'ils aient des pas de porte dans des rues extrêmement commerçantes où ils font découvrir la marque.
Laura, est-ce qu'il y a un cliché que toi, avant d'accompagner les startups e-commerce, tu avais, et puis ce cliché a disparu au fur et à mesure que tu les as accompagnés?
Non, j'en ai qui sont de plus en plus vrais, mais j'en ai pas qui ont disparu.
Alors, du coup, c'est plus des clichés, ce sont des croyances bien ancrées. Tu peux nous les partager?
Ouais, en fait, le vrai problème aujourd'hui que je rencontre, en tout cas, encore une fois, sur celles qui viennent me voir, donc c'est celles qui vont pas forcément bien, donc toutes celles qui viennent pas me voir, elles font certainement les choses différemment. Mais pour celles qui viennent me voir, c'est souvent qu'ils pensent que c'est un sujet d'outils et que c'est l'outil qui va faire la différence. Et il n'y a rien de plus faux, en fait.
Et alors, quand tu leur dis ça, comment ça se passe?
Alors, souvent, ça commence par « Ah oui, mais c'était le moins cher » ou alors « ah oui, mais c'est comme ça que un tel, il m'a partagé son tech stack, ou mon mentor dans mon accélérateur, etc. Donc, j'en profite pour passer un petit message. C'est pas parce qu'un entrepreneur, a fait les choses d'une certaine façon que ça s'applique à tous les autres entrepreneurs, même s'il a eu énormément de succès. Et il y a toujours cette problématique d'adaptabilité, en fait, à ses clients, son client idéal, j'aime pas trop le terme persona, même si c'est courant aujourd'hui, a aussi son assortiment, à son positionnement, parce qu'il y a aussi trop peu, en rajout au cliché des outils, il y a aussi trop peu de marques qui se posent la question de la marque, justement.
Laura, je sais que tu publies énormément de contenu. Comment est-ce qu'on fait pour te suivre, pour lire tes contenus, pour te contacter? Comment est-ce que ça se passe?
Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des outils pour te contacter?
Ben, j'espère, parce qu'il va falloir un minima utiliser certains réseaux sociaux et que je suis moi-même sur certains outils, en particulier en emailing. Donc, pour me contacter côté professionnel, j'ai un Twitter, @elbokobza, sur lequel je publie une partie de ma veille. J'ai un LinkedIn, Laura Bokobza, sur lequel je publie pas mal de contenu dédié aux entrepreneurs sur justement les erreurs à pas commettre ou des bonnes pratiques à appliquer. Et enfin, sur mon site lbkconsulting.fr, on peut s'abonner à ma newsletter, qui est une newsletter de curation de contenu qui s'appelle Le Comment du Pourquoi. Donc, il y a une page d'inscription à la newsletter. Elle est hebdomadaire. Il y a moins de 2000 mots et ça te permet de savoir tout ce qui s'est passé la semaine d'avant dans le e-commerce, mais pas que, dans le tech et la tech et le digital en général. Et il y a même une version anglaise, si vous préférez, qui est disponible depuis mon Twitter.
Et Laura, ta newsletter faisait partie de mes recommandations. Donc, elle est dans l'ensemble des recos-micros qu'on a synthétisés dans notre page Notion.
Absolument.
Donc, je confirme, c'est une excellente newsletter. Allez-y.
Et merci encore de la reco.
Et félicitations Laura, parce que c'est tellement compliqué, enfin ça prend tellement de temps de créer du contenu et t'en crées vraiment beaucoup, donc bravo pour l'initiative et tout.
Ouais,
ce que tu
Laura, apportes. Laura, t'es hyper modeste, parce que quand même sur LinkedIn et aussi sur Twitter, t'es quand même bien, quoi, hein. T'es une personne très en vue et très respectée.
Ah bah écoute, c'est gentil de le dire comme ça. Moi, j'ai toujours du mal à le regarder comme ça. Après, du coup, ma création de contenu, ce que ça m'apporte, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me contactent pour savoir comment s'organiser, en fait. Et de business coach, je suis en train de glisser parfois vers coach en organisation ou en productivité personnelle. parce que c'est aussi un des vrais sujets des entrepreneurs, c'est qu'ils ont tellement de choses à s'occuper, ils n'arrivent pas forcément à bien prioriser, bien déléguer, bien s'organiser.
Bah merci beaucoup Laura.
Merci beaucoup Laura.
Merci à vous.
Au plaisir, à très bientôt.
Au revoir.
Reco micro, au micro, on fait notre reco. Écoutez-la, illico presto. Retrouvez toutes les recos sur notre page Notion en lien dans la description. Adrien, quel est ta reco de la semaine?
Je commence l'année avec une recommandation de newsletter. C'est une newsletter payante. Alors avant que je paye une newsletter, il va falloir me convaincre, quoi. Je crois que je l'avais 6 mois, j'étais sur la version gratuite qui m'envoyait rien du tout, mais je me tâtais. J'ai contacté le fondateur, celui qui a créé, pour essayer de négocier un prix et tout ça. Je trouve ça hyper cher, mais c'est peut-être les prix, $15 par mois, et si c'est un prix normal pour une newsletter.
Oh bah vu que toi t'aimes bien le coup de commerce, c'est ça va quoi. Ça rentre dans le
je sens le pic pour avoir mis 3 sur 10
grille. Ouais, non, ouais. Ça va. Non, mais tu sais, d'ailleurs, on pourra faire un jour un clash commerce sur tout ce qui est subscription economy et tout ça, hein.
Alors la newsletter que je mets en avant aujourd'hui, c'est une newsletter que je reçois depuis quelques mois, c'est une newsletter payante, donc qui est en anglais et qui est dédiée à Amazon. Donc le nom de la newsletter, c'est WDADTW, c'est hyper compliqué, c'est What Did Amazon Do This Week. Et donc en fait, tous les dimanches, ils vont publier une newsletter qui est très synthétique avec tout ce que fait Amazon et classé par différents thèmes, donc facile à lire. Bon, si vous voulez, vous vous inscrivez et de toute façon, je la reçois, on regarde, on l'utilise également comme source pour alimenter nos épisodes. Donc s'il y a des choses intéressantes, on les met en avant.
Laetitia, Adrien, t'as pas un code promo? C'est pas sponsorisé, t'as
Je déteste ces trucs de promo, peut-être, mais franchement, ouais, non, je sais pas. Ouais, peut-être. Bah, contactez-moi si vous voulez un truc, mais je sais même pas. Ça marche sur Substack comme ça? Tu peux partager, ouais,
bah, c'est sur Substack. Oui. Peut-être okay, que bah, ça pourrait être bien de demander pour notre communauté, je ne sais pas, 3 mois, 3 mois offerts. Non, 3 mois,
ouais,
ça
commence à gratter
$45.
Des trucs, j'aime pas ces trucs, Laetitia. Bah, bon. Laetitia, c'est quoi ta reco alors?
Eh bien, moi, c'est l'épisode 700 du Super Daily. Souvenez-vous, le Super Daily. Alors, déjà, on a reçu le Super Daily. C'était au tout début, saison 1, ça devait être l'épisode 20. Le Super Daily, c'est un podcast qui est dédié à l'actu du social media.
Et en fait, pour l'épisode 700, alors c'est tous les jours hein, qu'ils font leur podcast dédié à l'actu du social media. Et pour l'épisode 700, c'était l'épisode de Noël, ils ont fait un grand quiz. Donc, vous savez que je suis une fan des jeux. Ils ont fait des quiz autour du social media. C'était trop bien. J'étais en voiture, je conduisais pendant des heures et des heures. Et ça dure plus d'une heure, cet épisode. Et c'est trop marrant. Ils sont rigolos, ils sont géniaux. Et en plus, on apprend plein de choses. Donc, allez-y, l'épisode 700. Et j'étais triste qu'ils ne m'aient pas invité parce que j'aurais tout gagné.
Tu avais les bonnes réponses?
Bah, j'avais beaucoup de bonnes réponses.
Ils ont fait ça en public, enfin il y avait des invités.
Ouais, et ils ont fait ça sur Twitch et ça prenait vachement apparemment. Et en plus, il y avait plein de gens qui sont passés aussi au micro qui répondaient et qui participaient. Il y a par exemple Aurélie Moulin de 3 aises de citron qui les suivait et qui répondait. Et c'était trop bien. Donc bravo pour ce bel épisode et je vous invite à l'écouter parce que il est vraiment cool et vous apprenez plein de choses en même temps. Le panier surprise. Ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, on s'amuse. Adrien ou moi sommes le maître du jeu. Et puis, nous nous amusons autour des sujets du digital. N'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté. Vous qui nous écoutez en train de faire votre ménage, en train de courir, en train de ranger. Et puis, bah, surtout, essayez de trouver les bonnes réponses avant que je découvre les bonnes réponses ou Adrien. Cette semaine, Adrien est venu avec un Kikadi. Rappelle-nous ce que c'est que le Kikadi, Adrien.
Une citation, je te donne 3 propositions et tu me dis qui a fait cette citation.
Okay.
Donc, la citation est la suivante. Nous avons une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs mois. Le mois d'octobre a été meilleur que le mois de mai alors que nous sortions de confinement à l'époque. Est-ce que c'est Henri Capoul, cofondateur de Cajou, Thibaut Hugues Delorose, cofondateur de Back Market ou Étienne Urez, PDG de Boulanger?
Tout de suite, quand tu disais, je pensais à Back Market. Donc je maintiens Back Market.
Alors c'est une mauvaise réponse, mais en fait j'ai envie de te le dire, c'est presque une bonne réponse parce qu'il a dit quelque chose de très très similaire. Donc la bonne réponse était Cajou, parce que je faisais mes recherches sur le Quick Commerce et je suis tombé sur cette interview il y a quelques jours, quelques semaines. Mais Back Market a été interviewé suite à leur levée de fonds et ils ont dit pas exactement la même chose, mais en termes de croissance etc, ça aurait pu être exactement la même chose. Donc je t'accorde ce point, parce que s'il l'a pas dit comme ça, il aurait pu le dire dans ses propos.
Je voudrais juste rajouter quelque chose, je l'ai pas mis dans l'émission, mais j'ai regardé un peu les chiffres, alors je ne sais plus qui a publié ça, qui expliquait que justement, sortie de confinement, la consommation avait baissé, notamment en ligne, et que ça avait bien repris à partir d'octobre et notamment novembre avec toutes les offres commerciales qu'on connaît, avec le Black Friday et tout ça. Donc, ce qu'il raconte, c'est pas trop déconnant ni décorrélé de la réalité du marché e-commerce.
Et ça confirme tous ces acteurs Quick Commerce qui profitent du système, du contexte, on va dire, du contexte. Ça a accéléré. Laetitia, tu avais un French Connection et un chiffre de la semaine.
Ouais, on commence avec le chiffre de la semaine. Adrien, si je te dis 55%, tu me réponds que c'est le pourcentage de Français qui ne comprennent absolument rien au métaverse et au NFT. Tu me réponds que c'est la baisse de fréquentation des magasins physiques le premier jour de ces soldes d'hiver. Pour rappel, ça a commencé mercredi. Ou tu me dis que c'est le cours de l'EMAX avant de finalement s'effondrer en mai dernier.
C'est quoi l'EMAX?
C'est une crypto.
Ah ok. Non, je dirais le deuxième. Ça me paraît très amusant. Enfin, pas amusant, mais je pense que c'est tristement, ça pourrait être ça.
Ouais, la baisse de fréquentation des magasins.
Ouais.
Eh bien, c'est ça. C'est triste, mais les gens ont vraiment déserté les magasins, les centres commerciaux. Sur LinkedIn, il y avait une photo de Nathalie Bala, qui est la big boss de La Redoute, qui était dans le parking du grand centre commercial de Ralil à 17h. Le parking était vide et elle-même disait, alors c'est pas LinkedIn, je crois même que c'est Twitter, et elle disait que c'était étrange. Moi, je vais rarement dans les magasins, donc je ne peux pas corroborer cette information.
Ça sent l'article Slate, ça, tu sais. Ce petit truc, j'étais dans un centre commercial, j'ai fait une photo, c'est triste.
C'est... Ouais, c'est Nathalie Bala quand même.
Ok.
Ouais, non, mais après, j'ai regardé un peu partout. Il y a une baisse drastique de la visite, mais c'est normal en même temps.
Bon, 55%, c'est brutal, quoi. En tout cas,
c'est chaud.
C'est brutal, ouais.
C'est chaud.
French Connection, Laetitia.
French Connection, allez, c'est parti. Le but de French
Connection... C'est pas censé être une rubrique happy, fun et tout ça?
Ouais,
c'est déprimant,
vrai.
Là, ce chiffre.
French Connection, je vous cite des noms, des thèmes, voilà, et puis vous essayez de retrouver ce qui lie tous ces mots. Alors, on est parti. T'es prêt, Adrien?
Yes.
Cosmos. Mina.
Ok. Mina?
Ouais, Mina.
J'ai aucune idée.
Harmonie?
Non.
Stellar?
Ah bah ouais, c'était large, je l'ai. Mais alors vraiment, alors elle a vu un documentaire sur YouTube de 3 minutes il y a 2 mois. Maintenant, c'est une expert crypto, quoi. Donc ce sont les cryptos. Ouais, c'est ça. Ouais,
oui, c'est ça. Ce sont des crypto-monnaies. Non, et en plus, dans toutes mes recherches crypto, NFT, métavers, j'évite d'aller sur YouTube parce que j'ai pas envie de tomber dans des trucs chelous. Donc, mais oui, c'est ça. Voilà. Donc, je m'intéresse beaucoup.
C'était quoi
crypto.
Les autres que tu avais?
Tron, Helium, ouais. Flow. Et en fait, j'ai essayé de trouver des noms qui pouvaient pas trop faire appel à la crypto-monnaie, parce que quand même, il y a des noms assez rigolos aussi. Et il n'y a pas d'ordre parmi tout ce que je vous ai cité sur celles qui ont un cours plus évolué que d'autres.
Ça y est, tu te mets en conseiller de crypto, ouais. Là. N'écoutez pas mes conseils, ça n'engage que vous. ne mettez de l'argent que ce que vous pouvez perdre, etc. Ouais, on se croirait sur des trucs, des conseils financiers. Ok, Lydia, bah, écoute, merci beaucoup. Un autre French Connection ou c'était tout?
Non, c'est bon, c'est tout pour moi cette semaine. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site de Café de l'e-commerce. Laissez-nous 5 étoiles et s'il vous plaît, nous sommes à un avis du Saint Graal des 100 avis. Donc allez-y, merci.
Merci à tous, à la semaine prochaine Etia, à la semaine prochaine tout le monde.
Ciao, ciao.
Vous voulez pas que je vous commande une petite pizza, chef?
T'es pas de refus, mon petit Alain.